Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'infos et à la une, les nouveaux députés au travail. Rentrée des classes en quelque sorte cet après-midi. Alors qui dirigera cette Assemblée nationale sans majorité claire? Eh bien les élus votent en ce moment. Deuxième tour, la marcheuse. Jusqu'ici ministre Yael Braun-Pivet devrait être élue à présidente de l'hémicycle. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Agnès Bonfils. Fillon, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Augmentation du point d'indice de 3,5% au mois de juillet pour les fonctionnaires. C'est encore trop peu, réagissent les syndicats. Au deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, ses anciennes compagnes sont venues parler de sa violence. Et puis amour, gloire et beauté dans les paddocks. Le beau-père de Max Verstappen insulte Lewis Hamilton.
À suivre aussi un document RTL 24 heures après le bombardement d'un centre commercial en Ukraine. Bilan provisoire 18 morts. Les Russes affirment que le supermarché en question était désaffecté. C'est faux, nous dira notre invité de 18h15, un habitant de Kremenchuk qui l'a tout vu, tout entendu. À suivre aussi un RTL soir très sport avec la brigade RTL qui se demande si le Covid ne va pas venir gâcher le Tour de France. Et puis les dessous de l'actu, les dessous du comeback surprise ce soir de Serena Williams à Wimbledon. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu s'il vous plaît.
Ce soir, à quoi sert le président de l'Assemblée nationale? Alors qu'on devrait justement connaître le nom de l'heureux élu dans la soirée, vous découvrirez le rôle de l'ombre de ce pilier de la démocratie. Au menu également, le marathon festif des rugbymen de Montpellier et des habitants qui réclament, le stationnement payant.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, puis le temps tout au long de l'émission avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance pour demain?
Retour du soleil à l'est et ça se gâte par l'ouest.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier.
Agnès Bonfillon.
Vous le disiez, Julien, sans surprise, Yael Braun-Pivet devrait être élue ce soir présidente de l'Assemblée nationale. La candidate a recueilli 238 voix au premier tour. Comme les autres candidats, elle a fait le plein de voix de son groupe. Le vote continue actuellement. Marie Mollet, vous avez assisté à cette première séance pour RTL. Séance très protocolaire.
Oui, exactement. 15h. Les 577 députés se pressent sur les bancs de l'hémicycle par ordre alphabétique. Coup d'œil aux voisins, parfois triste surprise. Des députés RN cernés par des insoumis coincés entre deux élus de la majorité. Sourire gêné, on fait parfois mine de s'ignorer. Puis le vote pour la présidence du Palais Bourbon débute.
Madame Le Grip, Madame Le Meur.
Les députés... Monsieur appelé le... en randonnion jusqu'au perchoir, bulletin secret, enveloppe dans l'urne. Résultat du premier tour, la candidate de la majorité largement en tête, 238 voix. Yael Braun-Pivet, actuelle ministre des Outre-mer, qui devrait être élue sans encombre et devenir la première femme à présider le Palais Bourbon.
Le Rassemblement National, lui, se désiste pour le premier tour. Un Rassemblement National qui voulait, on le rappelle, des députés exemplaires, Marie. Aujourd'hui, il a été rattrapé par un dérapage.
Eh oui, car la séance était ouverte par le doyen des députés, c'est la tradition. Aujourd'hui, José González, 79 ans, pied noir, élu Rassemblement National, vieux routier du front et qui, en plein milieu de son discours, s'est autorisé une allusion explicite à l'Algérie française.
Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962.
Et il réitère à la sortie de l'hémicycle au micro de Mathilde Piquet.
C'est pas moi qui vais sublimer l'action du général de Gaulle en ce qui concerne l'Algérie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Algériens qui n'ont jamais connu la France, 30, 40, 50 ans, et qui nous disent « Monsieur, quand est-ce que vous revenez ?»
Et dit-il, il ne sait pas si l'OAS a commis des crimes. Un discours façon Front National des origines, très loin du nouveau visage affiché par Marine Le Pen. Mais n'y voyez surtout pas un contenu politique, évacue un cadre RN. Il ne fait part que de son expérience personnelle.
Marie Mollet en direct de l'Assemblée nationale pour RTL.
Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron regarde tout ça de loin. Il participe au sommet du G7 en Allemagne.
Alors être loin ne veut pas dire oublier ce qui se passe en France. William Galibert, Emmanuel Macron s'est débrouillé pour faire passer une petite carte postale de Bavière.
Oui, et il le fait d'abord en convoquant une référence bien de chez nous pour expliquer l'absurdité de la situation, de la baisse du pouvoir d'achat et de la hausse des prix de l'énergie.
Honnêtement, ce sont les shadocks, ce qu'on est en train de vivre. On dépense l'argent du contribuable pour essayer d'aider le même contribuable comme consommateur à faire face à l'augmentation des prix qui vient de l'extérieur sur le pétrole et le gaz qu'on ne produit pas, qui est lié à la guerre. Objectivement, la meilleure réponse, c'est de faire baisser ses prix à l'achat.
Et ça, c'est ici que ça se joue, explique le président, dans ses sommets entre grands leaders. En clair, si je passe mon temps à l'étranger en ce moment, c'est à votre service.
C'est pourquoi ces sommets du G7, qui peuvent parfois sembler très lointains à nos compatriotes très désincarnés, touchent en fait des sujets qui sont essentiels pour notre quotidien, parce qu'on parle du plein de course et du plein d'essence.
Et pendant que le gouvernement prépare sa loi pouvoir d'achat, Emmanuel Macron poursuit sa tournée. Il est déjà reparti pour le sommet de l'OTAN qui va débuter à Madrid.
William Galibert, l'envoyé spécial de RTL au G7 en Allemagne.
RTL, 18h05, le compte n'y est pas pour les fonctionnaires.
Le salaire des 5 700 000 agents de la fonction publique va certes augmenter de 3,5% au mois de juillet, du jamais vu en 37 ans. Et pourtant, au vu de l'inflation, c'est loin d'être suffisant, explique Céline Verzelletti, représentante de la CGT.
Mais c'est rien, c'est peu. C'est à nouveau une marque de non-reconnaissance de nos qualifications, de notre utilité, ce peu de revalorisation. Pour nous, ça veut dire qu'on est vraiment peu de choses pour ce gouvernement, tous les fonctionnaires. Bien évidemment, il faut multiplier les pressions, multiplier les préparations de mobilisation, les initiatives, les actions, les mobilisations. C'est quand même une déception et une colère que nous avons aujourd'hui.
Alors 3,5% d'augmentation du point d'indice, ça vous paraît peut-être très abstrait. On va essayer justement de se montrer très concret avec des exemples précis, Anaïs Bouissou.
Oui, concrètement, un agent d'accueil en mairie qui touche aujourd'hui le SMIC va gagner 45 euros net de plus tous les mois. C'est symbolique, hein, ça veut dire que tous les fonctionnaires vont désormais toucher des salaires au-dessus du SMIC, au-dessus du salaire plancher. Je vous donne un autre exemple, celui d'une institutrice qui enseigne depuis 7 ans. Eh bien, pour elle, son salaire va augmenter d'un peu plus de 60 euros net par mois. Alors, ce sont des calculs de salaire assez complexes en fonction du grade, de l'ancienneté, mais les plus grosses augmentations sont destinées aux fonctionnaires qui ont le plus d'ancienneté. Une sage-femme, par exemple, qui travaille depuis 20 ans à l'hôpital, eh bien, avec la revalorisation du point d'indice, elle va gagner 111 euros de plus par mois.
Merci Anaïs Bouissou du service économique et social de RTL.
Le personnel soignant qui, justement, réclame aujourd'hui des augmentations de salaire.
En pleine crise des hôpitaux, une grève générale illimitée a démarré ce matin au CHU de Bordeaux. Une grève symbolique pour une nouvelle fois réclamer des embauches et des augmentations. Dimitri et Céline sont aides-soignants en réanimation. Ils travaillent de nuit. Ils ont respectivement 21 ans et 18 ans d'ancienneté.
On est moins nombreux et les collègues changent très souvent. C'est-à-dire que les gens commencent à travailler et ils se rendent compte rapidement que c'est pas fait pour eux, que c'est trop dur. Et ils restent 2-3 ans et ils s'en vont. Il y en a qui changent de lieu de travail, mais il y en a qui changent de métier très souvent. Et on voyait pas ça pour moi il y a 15 ans.
Saturation du manque de personnel, de l'obligation qu'on peut avoir des fois de faire des nuits par rapport à notre service. Mais c'est un manque de personnel et un manque aussi de nouvelles personnes par manque d'attractivité de notre métier et de reconnaissance. Alors je travaille de nuit, je suis payé à peu près 1 800-1 900 euros.
Et sachant qu'on travaille le dimanche, le week-end, quand on est un peu submergé, on se dit ça on n'a pas été comme il faut, ou là on a perdu patience, et oui là c'est décourageant.
Des propos recueillis par Philippe Demaria pour RTL. Et puis, sachez que l'État a bien commis une faute en n'ayant pas assez stocké de masques avant l'épidémie de Covid. Le tribunal administratif de Paris donne en partie raison à une trentaine de plaignants, tout en soulignant quand même qu'aucun lien ne peut être établi avec les contaminations. Concrètement, les personnes qui ont attaqué l'État ne seront pas indemnisées.
Allez, petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et ensuite on part à Strasbourg. Deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, le meurtrier présumé de l'étudiante Sophie Le Tan, répète qu'il n'est pas un monstre. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal maintenant dans RTL Soir, devant la cour d'assises de Strasbourg, la personnalité de Jean-Marc Reiser au centre des débats.
Au deuxième jour du procès, les anciennes compagnes du meurtrier présumé de l'étudiante Sophie Le Tan sont venues à la barre. Bonsoir Yannick Holland.
Bonsoir.
Toutes ont témoigné de sa violence.
Oui, un homme violent, imprévisible, capable d'exploser d'un seul coup. Témoignage glaçant, par exemple, d'Isabelle. Une relation passagère à l'été 86. Elle raconte le jour où Jean-Marc Kreiser la croise avec un autre homme. Foudrage. Il l'embarque de force dans sa voiture, roule comme un fou jusqu'au fond d'une forêt, la jette au sol et s'acharne sur elle à coups de pied dans le ventre. Elle croit mourir, mais finalement, Kreiser la ramène chez lui pour la séquestrer. Il change tous les verrous. Quand elle essaye de s'échapper par la fenêtre pendant la nuit, il la rattrape encore et essaye de l'étrangler. Elle ne réussira à lui échapper que plusieurs semaines plus tard, mais il continuera à la harceler jusqu'à l'autre bout de la France. Une autre compagne qui, elle, a vécu avec Kreiser pendant de longues années, avait pris l'habitude de ses coups de sang, mais elle connaissait aussi ses bons côtés et elle le croyait innocent. Quand le corps de Sophie Le Tan a été retrouvé, elle a été anéantie. Elle a compris d'un seul coup qu'il l'avait manipulée.
Mais c'est plus que de la trahison, c'est, j'avais l'impression que en fait, il m'avait menti en me cachant son côté pervers. Cette nouvelle affaire m'a fait apparaître un homme que je ne connaissais absolument pas, capable d'ôter la vie à une jeune fille. Tout d'un coup, vous voyez que ça, c'est vrai.
Aujourd'hui, elle se dit soulagée que cet homme avec qui elle a vécu toutes ces années ait enfin été arrêté.
Le compte-rendu d'audience signé Yannick Holland pour RTL. Sur les 6 départs de feu dans les Pyrénées-Orientales, un seul reste préoccupant ce soir, celui d'Opoule. 75 personnes ont dû être évacuées en début d'après-midi à Rivesaltes. Le trafic SNCF, lui, est fortement perturbé.
L'horreur aux États-Unis, 46 personnes mortes au Texas. Toutes venaient de passer la frontière clandestinement.
En provenance d'Amérique du Sud, notamment du Mexique, elles rêvaient d'une nouvelle vie. Elles sont mortes dans la fournaise d'une remorque abandonnée à San Antonio, en plein soleil. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant permanent de RTL aux États-Unis. Ce drame risque de se reproduire, Lionel. L'arrivée des migrants a fortement augmenté ces derniers mois.
Oui, le nombre est affolant. 240 000 personnes arrêtées pour le seul mois de mai. Le fameux mur promis par Donald Trump ne couvre que de petites portions de frontières et est inefficace. Alors, la plupart des migrants traversent le Rio Grande de nuit, à pied ou dans des bateaux gonflables. Ils paient entre 750 et 2000 dollars selon les cartels. Pour y avoir assisté, c'est impressionnant. Après avoir posé le pied sur le sol américain avec un grand sourire, ils savent que leur chemin de croix n'est pas terminé. Alors, quand on dit arrêter, tous ne sont pas arrêtés, surtout s'il y a des enfants. Mais il y a des ordres de reconduction à la frontière. C'est pour ça que parfois ils s'entassent dans des camions comme celui de San Antonio pour échapper aux forces de l'ordre. À noter que les migrants viennent d'Amérique centrale et du monde entier. Ils prennent l'avion pour le Mexique. Beaucoup d'Haïtiens, d'Indiens, de Turcs et le nombre de Russes a doublé cette année.
Lionel Gendron, direct de New York pour RTL.
Grosse sortie de route maintenant dans le monde de la Formule 1. Le beau-père de Max Verstappen insulte le grand rival, Lewis Hamilton.
Sachant que, attention, le beau-père n'est pas n'importe qui, il s'agit de Nelson Piquet, le triple champion du monde brésilien. Il a traité le Britannique de petit nègre, Eric Silvestro.
Oui, pas d'ambiguïté sur le terme utilisé, néguinho, petit nègre, dans un podcast enregistré au Brésil lorsque Piquet a évoqué Lewis Hamilton. Le Britannique a immédiatement réagi sur son compte Twitter. Ce sont des mentalités archaïques qu'il faut changer et qui n'ont pas leur place dans notre sport. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. Le temps est venu d'agir. Dans un communiqué, la FIA et Mercedes ont condamné ce langage raciste et discriminatoire et ont rapidement reçu le soutien de Ferrari. En revanche, silence gênant du côté de Red Bull. Et pour cause, puisque vous l'avez dit, la compagne de Max Verstappen n'est autre que la fille de Nelson Piquet, Kelly, mannequin brésilien en couple avec le pilote néerlandais depuis octobre 2020, très présente sur les réseaux sociaux, où elle rend régulièrement hommage aux deux hommes de sa vie. Reste que son papa, qui avait déjà sous-entendu que Senna était gay, que Mansell était un idiot et qui avait traité Enzo Ferrari de sénile, ferait mieux de se ranger sur le bas-côté.
Le papa qui était le chauffeur de Jair Bolsonaro lorsqu'il est devenu président au Brésil, le président d'extrême droite au Brésil. Merci Eric, merci Agnès, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le temps maintenant, cher Peggy, à quoi faut-il s'attendre demain ?
Et encore quelques nuages demain, Julien, et quelques gouttes sur l'est du pays, mais uniquement le matin parce qu'ils vont vite s'évacuer et laisser place à de belles éclaircies. Donc retour du soleil et d'un temps sec pour vous dans l'après-midi. Il fera très beau sur les régions centrales et c'est à l'ouest en fait que le temps sera plus nuageux avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Un ciel couvert le matin entre la Bretagne, la Normandie et la façade atlantique. Quelques faibles pluies et l'après-midi, les nuages vont gagner le nord. Mais ils laisseront passer aller quelques trouées. Il y aura encore des averses qui seront plus régulières entre la Bretagne et les pays de la Loire, avec un coup de tonnerre possible. Les températures, elles seront quasi stationnaires, de 17 à Brest à 33 à Nîmes, 28 à Toulouse, Lyon, 27 à Limoges et Nancy, 26 à Paris et Lille et 21 à Rennes.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Est-ce que le Covid va gâcher le Tour de France? Parce que ça y est, la 7e vague déferle avec environ 70 000 cas par jour dans notre pays. Ça grimpe et vite. Et forcément, le peloton s'organise et s'inquiète parce que l'épidémie a déjà décimé ces dernières semaines le Tour de Suisse avec une trentaine d'abandons. Bonsoir Nicolas Jean-Jereau.
Bonsoir.
Alors, vous êtes à Copenhague où le départ du Tour sera donné vendredi avec un protocole bien précis, le protocole de l'UCI, la Fédération Internationale.
Oui, avec tout cela qui a été précisé tout à l'heure, des tests étaient déjà obligatoires et c'est vrai que le but est de réduire le risque au maximum. Dans les deux jours précédant le départ, coureurs et encadrement des équipes devront présenter un test antigénique négatif, test à nouveau lors de chaque journée de repos, mais ça concernera aussi les commissaires de course, le personnel UCI et celui des contrôles antidopage. Pendant l'épreuve, l'UCI recommande, mais recommande seulement au staff des formations de faire les tests régulièrement, tous les 2-3 jours et les équipes ne risquent pas l'exclusion du Tour. Deux coureurs positifs au Covid n'entraînent plus un retour à la maison pour tout le monde.
Comment les coureurs vivent ce Tour sous menace en quelque sorte ?
C'est une situation qui rajoute du stress inévitablement car ils voient ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire une société qui vit normalement sans restriction. Un cas concret, c'est à l'hôtel. Les hôtels ne sont pas privatisés, ne sont pas réservés aux équipes. Tout le monde circule, le personnel ne met plus forcément de masque. Et donc ils sentent que le risque d'une contamination est partout. Pour certains, c'est pesant, pour d'autres non. Romain Bardet, inquiet, tweetait ce matin que 90% des gens à bord de son avion ne portaient pas de masque. Et puis dans le même temps, Peter Sagan, le triple champion du monde, était sur le même vol que nous, on l'a croisé, je suis allé le saluer, il ne portait pas de masque et il s'en fichait un peu.
Comment les équipes s'organisent pour tenter de se protéger ?
Alors elles font davantage attention au championnat de France. Déjà ce week-end, certains leaders d'équipe étaient en chambre individuelle pour les préserver. On sent qu'elles se renferment sur elles-mêmes. Le Belge De Clercq est positif. Son équipe Quick-Step a rappelé le champion de France, Florian Sénéchal. 80% des formations demain et après-demain par exemple feront des visioconférences pour leur présentation avant le départ et ne quitteront pas leur hôtel.
La brigade RTL à Copenhague à 3 jours du départ du Tour donc au Danemark avec Nicolas Jean-Jereau. Merci beaucoup Nicolas. Voilà, petite pause et puis ensuite un document RTL. Notre invité est un habitant de Kremenchuk en Ukraine. Hier, le centre commercial en face de chez lui a été bombardé. Bilan, au moins 18 morts. Le Monde s'indigne. Les Russes, eux, affirment que les magasins étaient vides et désaffectés. Témoignage RTL à suivre juste après ça.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée avec RTL Soir, 18h21 et maintenant un document RTL. Notre invité est un témoin de l'horrible attaque sur un centre commercial hier en Ukraine. 18 morts, 59 blessés, c'est le dernier bilan provisoire à Kremenchuk dans le centre du pays, à 200 km du front. Le supermarché a été visé en plein après-midi alors que des civils y faisaient leurs courses. D'après Moscou, c'est un dépôt d'armes qui était visé et le feu s'est propagé à des magasins désaffectés totalement vides. Faux, archi faux, riposte ce soir notre invité. Nigel a tout vu, tout entendu. Ce retraité anglais est marié à une Ukrainienne. Il habite à une centaine de mètres seulement du lieu de l'explosion. Bonsoir Nigel, merci d'être avec nous.
Hi.
Nigel, tout d'abord, racontez-nous, vous étiez où exactement au moment du bombardement ?
J'étais dans mon appartement. Il se situe à 100-150 mètres du supermarché et du centre commercial. J'ai entendu deux explosions. Et ensuite, je suis sorti sur mon balcon. J'ai regardé dehors. J'ai vu une fumée terrible, des flammes terribles. La fumée était si épaisse qu'on ne voyait plus le bâtiment.
Et les explosions que vous avez entendues, elles étaient très puissantes ?
Oh gosh, yes. Oh mon Dieu, oui. Beaucoup de fenêtres, même à 80 mètres de là. Elles ont été brisées, pulvérisées. Donc oui, c'était vraiment très puissant. Les deux explosions ont eu lieu l'une après l'autre. Et ensuite, il n'y a pas que le centre commercial qui a pris feu, mais aussi les voitures qui étaient sur le parking. Elles ont commencé à exploser, elles aussi. Et toutes ces déflagrations se sont succédées pendant une heure. C'était vraiment une énorme explosion. Et quand on regarde le supermarché ce matin, eh bien, il est totalement détruit. Il ne reste plus rien, à part la superstructure du bâtiment. C'est vraiment horrible. Je connais environ 30 personnes qui travaillaient là. Vous savez, j'avais l'habitude d'aller y faire mes courses quasiment tous les jours. Deux de ces personnes que je connais très bien sont encore portées disparues aujourd'hui. On ne les a toujours pas trouvées.
Vous nous dites qu'il y a encore des disparus. Est-ce que ça veut dire que les secours, là, les cherchent toujours ?
Ce matin, il y avait encore entre 40 et 60 personnes portées disparues. Ça veut dire entre 40 et 60 personnes mortes ou blessées. Il y a des centaines de policiers et de pompiers sur place. Ils ont sécurisé le périmètre. Ils ont installé beaucoup de tentes et de véhicules sur le parking. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes dans les décombres du centre commercial. Donc ils essaient de localiser les corps.
Et est-ce que vous savez s'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur du centre commercial hier après-midi ?
Ça s'est passé en plein après-midi, vers 16h. C'est une heure où il y a beaucoup de monde, parce que les gens sortent du travail. Donc on peut imaginer que c'était très fréquenté. Je ne sais pas combien de personnes étaient exactement à l'intérieur. Certains disent 1000 personnes, mais c'est difficile d'être précis. Ce n'est vraiment pas confirmé.
Oui, 1000 personnes, c'est le chiffre du président Zelensky. Aujourd'hui, les Russes, eux, affirment que le centre commercial était fermé, vide, désaffecté. Ce n'est pas vrai ?
Non, bien sûr que non. Tout ce que les Russes disent aujourd'hui, ce sont des mensonges. Parce que ce centre commercial existe depuis des années. Depuis que j'habite ici, au moins en tout cas, c'est-à-dire depuis 8 ans. J'y vais moi-même tous les jours. J'y étais encore hier à 11h du matin. Je vous dis, je connais 30 personnes qui y travaillent. 5 ou 6 d'entre eux parlent très bien anglais. Et ils sont toujours très sympas avec moi. Ils m'aident. Malheureusement, 2 d'entre eux restent introuvables.
Expliquez-nous, c'est un grand centre commercial avec beaucoup d'activités ?
Il fait 200 mètres de long, 800 mètres de profondeur. Il y a un grand supermarché à l'intérieur et environ une trentaine d'autres magasins. Des vendeurs de café, de bijoux, des choses comme ça. Il y a une bonne pharmacie aussi. C'est tragique, parce que la majorité des employés sont des jeunes personnes. Ils ont la vingtaine, la trentaine.
Nigel, c'était une attaque qui était assez inattendue, non ? Parce que vous trouvez à des centaines de kilomètres du front.
Nous avions déjà été bombardés 2 ou 3 fois, à 8 kilomètres du centre, toujours au même endroit. Mais cette attaque d'hier, c'est une attaque qui vise clairement des civils. Il n'y a rien de militaire ici, et ils ont juste bombardé des innocents.
Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de subir de nouvelles attaques ?
Non, je suis trop vieux pour avoir peur. Et si je dois, à l'âge de 74 ans, défendre cette ville, alors je la défendrai, c'est tout.
Merci Nigel pour votre témoignage ce soir. Vous, l'Anglais, expatrié là-bas en Ukraine, témoin de cette attaque hier sur un centre commercial à seulement 100 mètres de votre appartement. Merci pour votre témoignage ce soir sur RTL.
Au revoir.
Thank you very much.
Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr.
On va marquer une toute petite pause dans RTL Soir et puis ensuite vos dessous de l'actu, changement de décor, hein, les dessous d'un comeback surprise improbable même. On pensait Serena Williams perdue pour le tennis, et bien la superstar est de retour ce soir sur le gazon de Wimbledon. Et puis laissez-vous tenter dernière avec une belle idée de livre pour les plus jeunes et qui fait écho à l'actualité. On vous explique tout juste après ça, restez à l'écoute.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée, RTL Soir, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
On continue de vous épauler, de vous accompagner, de vous informer. Les 3 infos justement à retenir ce soir avec vous, Agnès Bonfillon.
Le second tour a lieu en ce moment même. Les députés votent pour désigner le président de l'Assemblée nationale. En l'occurrence, ce sera une présidente. Yael Braun-Pivet est arrivée en tête au premier tour avec 238 voix. Pas assez de masques stockés avant l'épidémie de Covid. L'État a bien commis une faute selon le tribunal administratif de Paris. Cela dit, les plaignants ne seront pas indemnisés car aucun lien ne peut être formellement établi avec les contaminations. Au Texas, aux États-Unis, Joe Biden appelle à lutter contre le trafic criminel pesant plusieurs milliards de dollars qui exploite les migrants et coûte beaucoup trop de vies innocentes. 46 personnes en provenance d'Amérique centrale sont mortes enfermées dans une remorque abandonnée en plein soleil.
Merci Agnès. Le temps, Peggy, pour demain, dites-nous tout.
Retour des nuages, Julien, mais par l'ouest avec une nouvelle perturbation qui va donner un ciel couvert. Quelques gouttes le matin entre la Normandie, la Bretagne, en allant vers la façade atlantique. Et ces nuages vont se morceler dans la journée et gagner le nord. Et les précipitations seront plus régulières dans l'après-midi entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Mais partout ailleurs, on aura un très beau soleil avec des températures quasi stationnaires, globalement comprises entre 21 et 27 degrés et jusqu'à 33 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous d'un comeback. Après un an d'absence, Serena Williams, la superstar du tennis féminin, est de retour. Elle va jouer ce soir à Wimbledon au premier tour contre la Française Harmony Tan. Wimbledon, la même où tout s'était arrêté l'an passé après une blessure sur le gazon Sobritich. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
C'est un retour surprise, non ?
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsqu'elle a annoncé son retour sur les réseaux sociaux il y a deux semaines, c'était un peu comme un coup de tonnerre parce que franchement, pour suivre Serena Williams sur les réseaux sociaux depuis un an, on l'a essentiellement vue en tenue de soirée. J'ai remonté le fil de son compte. Les seules fois où elle était en tenue de sport, c'était sous sa casquette de femme d'affaires ou pour vanter une marque de soutien-gorge pour jouer au tennis. Vous savez, en fait, Julien, son quotidien tourne surtout autour de sa petite Olympia 4 ans, sa fille, qui au passage a son propre compte Instagram suivi par plus de 600 000 personnes, où on la voit poser comme une petite starlette et faire la pub de certaines marques.
D'accord. Du coup, à presque 41 ans, Serena Williams, elle revient avec quel niveau et avec quels objectifs ?
En fait, c'est difficile de le dire. Elle a repris la semaine dernière en double à Eastbourne. Elle n'a joué donc que sur un demi-terrain. Elle a toujours un service et un coup droit qui font mal. Mais pour ce qui est de sa mobilité sur le court, c'est un peu l'inconnu. Difficile de savoir si elle est en mesure de tenir le rythme. Elle a cessé de travailler avec Patrick Mouratoglou qui l'entraînait depuis 10 ans. Elle dispute son 20e Wimbledon. Elle s'est déjà imposée à 7 reprises sur le gazon londonien. Mais cette année, elle n'a pas grand-chose à y gagner, à part un joli chèque. Difficile d'imaginer qu'elle puisse en effet soulever un 24e titre en Grand Chelem le 9 juillet. Surtout, comme aucun point n'est distribué cette année dans ce Wimbledon un peu spécial, Serena Williams, qui est actuellement 1208e au classement, disparaîtra de ce classement, quoi qu'il arrive, à la fin du tournoi.
Bon, on aura un élément de réponse sur son niveau, ce soir, a priori, face à la Française Harmony Tan, les dessous du comeback surprise de Serena Williams à Wimbledon. Merci beaucoup Isabelle.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h33.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et comme tous les soirs, place à la jolie parenthèse culturelle et on va parler de nos enfants, de livres jeunesse maintenant avec Laurent Marcy qui nous a rejoint pour ses bons conseils. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Julien.
Toujours de bons conseils. Vous êtes venu avec un très joli livre à lire mais aussi à écouter et dont l'histoire résonne avec l'actualité. Le titre, c'est Le Grand Déménagement.
Exactement. Au moment où on parle de rouvrir les centrales à charbon, voici l'histoire d'une ville, une ville minière. On disait, raconte l'auteur Mathieu Pierlot, que c'était l'endroit le plus moche du monde. On disait que les habitants étaient les plus gentils du monde. On disait beaucoup de choses. Certaines étaient vraies, la plupart étaient fausses. C'est l'histoire d'un endroit où un jour, bien avant que la ville ne soit ville, un petit garçon découvrit au fond d'un trou un caillou qui allait transformer des vies.
Tout avait changé, parce que des cailloux noirs et mats, gros comme le poing, des cailloux tels que celui-là, il y en avait plein. Il suffisait de gratter un peu la terre, de se pencher, d'allonger le bras, et des cailloux comme ça, on en trouvait à la pelle.
Avec poésie, ce livre raconte donc l'histoire d'une ville minière, quelque part dans le nord, on l'imagine, quand la mine vidait la ville de l'intérieur et menaçait les murs des maisons.
Transformé en insecte, ils fouillent et se hissent, de toute leur force, ils glissent.
C'est l'histoire d'un déménagement forcé quand l'école s'effondra en pleine nuit et que les habitants comprirent que la ville ne tenait qu'à un fil.
Alors une histoire et on l'entend des chansons.
Chansons de Claire Veillé et Dominique Després alias Moqueux, portées par Françoise Breut dont la route a croisé celle de Dominica et Yann Tiersen sur ce titre sublime qui figure dans cet album.
Ne fonctionne plus de fumée, de poussière pour prendre.
Le grand déménagement, c'est aussi et surtout l'histoire d'une renaissance. Parce qu'après que la mine eut fermé et que les lapins furent revenus, eh bien, le grand déménagement, la ville, voilà, va se transformer en avec un happy end maraîcher. Le grand déménagement vient de paraître au label Dans la forêt. C'est tout doux, c'est tendre et poétique. C'est à écouter et à conserver.
À lire et à écouter Le grand déménagement, qui raconte aussi un petit peu l'histoire de certaines de nos régions. Merci beaucoup, Laurent Marsic, pour ce joli conseil livre jeunesse ce soir. Dans un instant, RTL Soir va se poursuivre. On va défaire le monde, on va défaire le perchoir avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Les députés sont en train de choisir en ce moment le président ou plus certainement la présidente de l'Assemblée. Mais au fait, ce président, cette présidente, quel est son rôle exactement, ses missions, ses pouvoirs, pourquoi le poste est si convoité? On va tout vous expliquer juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.